Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, que Dieu nous bénisse à travers sa parole. J'ai été amené à reprendre un message que j'ai donné il y a, vous n'allez pas vous en souvenir, il y a bien 15 ans maintenant. Alors on va voir si vous avez de la mémoire. Enfin, vous connaissez le texte. Et j'aimerais que nous puissions faire une première lecture. Une première lecture dans notre Bible où il est question d'une situation pathétique dans ce qui peut arriver dans notre vie de croyant et qui, quelque part, nous désarçonne, nous interpelle, est un véritable dilemme. Et nous allons donc passer un petit peu à travers les versets, parce que bon, le texte est quand même assez long. Et nous allons naturellement le prendre tout simplement à travers quelques versets clés, et puis j'aimerais les commenter ensuite. Avec naturellement une conclusion qui peut véritablement nous encourager. Parce que le but de la parole de Dieu, c'est toujours l'encouragement. Ça, c'est important. Et nous en avons besoin par les temps qui courent pour nous personnellement, dans nos vies. Nous rencontrons des situations qui sont quelquefois qui nous laissent perplexes. Et on se dit, l'Éternel, pourquoi ? Mais il y a toujours un plan de Dieu. Dieu ne se trompe jamais. Amen. Lorsqu'il permet des choses dans notre vie, c'est qu'il a des raisons. Et je pense qu'il faut lui faire confiance. C'est tout simplement cela. Alors, je vous propose que nous ouvrions notre Bible. Excusez-moi pour ma voix, mais non, ça ira. Hein? Et dans le livre des Rois, chapitre 4, et verset 8. Et je ne vais pas suivre les versets, je vais passer d'un verset à un autre en fonction des choses les plus importantes que j'aimerais partager avec vous. Alors, 2 Rois, chapitre 4, verset 8. C'est un livre d'histoire. Un jour, Élisée passait à Sunène. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois que le prophète passait, il se rendait chez elle pour manger, une invitation permanente. Et cette femme, qui avait des moyens naturellement, ça semble une famille riche, elle dit à son mari, « Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui, pour le prophète, un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » On y découvre une bonne disposition. Un peu plus loin, nous voyons qu'Élisée dit à son serviteur Géasi, « D'ici, voici, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. » Et il fait dire à Géasi, à cette femme, « Et les choses sont ainsi, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi ?» C'est le prophète qui est reconnaissant et qui demande à faire quelque chose à son tour pour cette femme bienveillante. Que faire pour elle ? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Il lui dit, appelle-la. Géasi l'appela et il se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Donc il annonce la naissance d'un enfant. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante, parce qu'elle savait que son mari était âgé, mais on se souvient d'Abraham, avec sa femme Sarah. Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque. l'année suivante, comme Élie lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour, qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le, rapidement, c'est moi qui ajoute, porte-le vite à sa mère. » Et le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Cette femme va avoir une réaction un peu plus loin. Elle dit « Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Elle parle à son mari à ce moment-là. Et il lui dit « Mais pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni un sabbat, c'était les traditions juives. » Elle répondit « Tout va bien. » Vous connaissez l'histoire, hein ? Ça va vous rappeler des souvenirs. Puis elle fit sceller l'ânesse. Elle dit à son serviteur, « Mène et pars, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc se rendre auprès de l'homme de Dieu, le prophète Élisée, sur la montagne du Carmel. Un petit peu plus loin, nous avons cette parole, « L'homme de Dieu l'ayant aperçu au loin, Géasi, il dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Tsunamite, maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien ? Son mari, ton mari et ton enfant se portent-ils bien ? » Elle répondit, « Bien. » Et je vais maintenant à la fin du texte. Géasi va recevoir l'ordre du prophète de faire certains gestes sur l'enfant qui est mort. Et nous voyons que les choses sont traduites de cette manière. Géasi va faire ce que le prophète lui dit, avec un bâton, avec des attouchements, enfin toutes sortes de choses qui correspondent. Et à ce moment-là, il n'y eut ni voix, ni signe d'attention, et il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé, malgré la démarche d'une prétendue guérison divine. » Ça va plus qu'une guérison divine, ça va... Maintenant, on attend une résurrection. L'enfant ne s'est pas réveillé, et lorsqu'Élisée arriva dans la maison, parce qu'il suivait de loin, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée pria un peu plus loin, il pria l'Éternel, et à ce moment-là, la chair de l'enfant se réchauffa, l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux, sa mère a recueilli son enfant. Non pas mort, mais ressuscité, elle est partie. Ça vous rappelle peut-être certaines choses. Le thème de notre méditation ce matin pourrait être celui-ci. Tout va bien. Avec Dieu, tout va bien pour le meilleur.
Amen.
C'est ça ce qui est important. Parce que nous sommes environnés de négatifs, hein, vous le savez, d'une manière ou d'une autre, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Nous avons aussi, nous en tant que chrétiens, même si nous avons la foi, des moments où nous fléchissons. Des moments où véritablement il y a des choses qui nous atteignent, mais profondément, au risque de désespérer de Dieu. Au risque de dire, bien, c'est fini. Mais permettez-moi d'ajouter, quand Dieu c'est fini, Dieu nous répond, tout commence. Tout commence. Il y a un texte que je vais peut-être citer plusieurs fois aujourd'hui. C'est dans le livre de Job. Alors Job, un homme heureux, hein, jamais de problème, aucune difficulté, un roi, un prince de la vie. Et il écrira ceci, pratiquement dans le milieu de son livre. Il dira bien que tu dises que tu ne le vois pas, que tu ne le sens pas, que tu ne le ressens pas, que tu ne l'entends pas, bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le.
Amen, amen.
Et c'est peut-être véritablement le problème de savoir attendre Dieu. Et je le dis, je le répète, quand nous disons « c'est fini Seigneur », il nous répond « eh bien, attends-le, parce qu'il va faire quelque chose. Ta cause est devant lui. » Dieu n'oublie pas. Dieu ne fait pas abstraction, de nos difficultés, de nos problèmes. Il connaît toutes les circonstances, il est omniscient, il est omniprésent et omnipotent. Ah ça, nous avons vraiment besoin de nous en imprégner. Vous remarquerez avec moi, je voudrais, c'est une petite introduction, chez cette femme, la Tsunamite, il y a une sorte de dissimulation sur la réalité de son drame. Oui, elle ne veut pas en parler à ses serviteurs, elle ne veut pas en parler à son mari. Elle ne veut rien dire à Géasi. Il a constaté, lui, de toute façon, que... Et nous croyons que ça, c'est une sorte de dissimulation de cette femme. Et nous voyons que la Tsunamite cache quelque chose. Elle est au cœur même de l'enfer, dans son cœur. Ses sentiments, sont complètement labourés, ils sont piétinés, pulvérisés, nous pourrions dire. Parce qu'il y a quand même une promesse, tu auras un enfant. Et puis cet enfant, il va mourir. Qu'est-ce que l'on peut penser de Dieu dans cette affaire? Tu donnes et tu reprends. Ben oui, mais c'est Job, il dit. Nous sommes nés nus et nous repartirons nus de l'autre côté. Et puis Dieu nous prend des choses et puis quelquefois il nous les redonne. Mais entre les deux, il y a une formidable leçon pour chacun d'entre nous. Eh oui. Alors elle cache autour d'elle, elle garde son secret pour elle. Mon fils est mort. Et pourtant, qu'est-ce que je peux dire? C'est Dieu qui me l'a promis par le prophète. Et voici l'enfant est né. Et puis voilà qu'il me le reprend. Ma tête, dit-il à son père alors qu'il est dans les champs. Il a peut-être fait, comment peut-on dire, une commotion. Je ne sais pas, un AVC, on dirait aujourd'hui. Hein? Alors il a mal. Il a mal. Et puis là, il va mourir. Il va mourir, tout simplement. Mais cacher quelque chose, cacher sa douleur, cacher sa détresse. Qui tient son explication et une explication supérieure. Nous, on s'arrête souvent à ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous constatons. Le constat des choses, les faits. Ben oui, on est sur terre, on n'est pas encore au ciel. Et nous n'avons pas la science infuse. Et nous voyons que la raison de se cacher, de ne rien dire, de cacher ça même à son mari, c'est une raison supérieure. Et moi, je voudrais vous donner finalement, simplement ce mot. C'est le miracle de la foi. C'est ça la question supérieure. Le miracle de la foi. Cette histoire de Tsunamite peut être comparée avec Jaïrus. Elle, c'était un fils qui mourait. Jaïrus, c'était sa petite fille qui mourait. Dans les deux textes. Et nous savons que l'histoire de Jaïrus est une perle dans la Bible. Ah oui. Parce que Jaïrus, ce père douloureux qui vient de perdre sa petite fille, qui court après Jésus pour qu'il vienne à la maison, que Jésus lui impose les mains, peu importe, qu'il fasse vivre, qu'il guérisse sa fille. Mais ce n'est plus une guérison maintenant, depuis qu'il est parti chercher Jésus. Il va falloir une résurrection, c'est autre chose. C'est autre chose. Et nous voyons que ce père qui pleure, parce que sa fille est décédée, va rencontrer 5 obstacles. La foule qui prêche Jésus qui l'empêche de passer. Et puis il y a tout simplement la femme à la perte de sang qui va arrêter le cortège en disant « c'est pas la peine d'aller plus loin parce que moi, je perds mon temps avec cette femme qui est en train de m'importuner parce qu'elle veut être guérie en priorité. » Et puis, il y a également la raison. Mais elle est morte, ta petite fille. C'est la raison. La raison, on écoute toujours la raison. Ah, tu vois, elle est morte. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant devant un mort ? Devant une petite fille qui est morte. Et puis il y a le sentiment que Jésus, à ce moment-là, va voir les gens pleurer. Et il va peut-être, quand on voit les gens pleurer, peut-être qu'on peut pleurer avec eux. C'est normal, c'est humain. Mais attention, le sentiment, quelquefois, il nous empêche de voir la lumière de Dieu. Parce que nous sommes tellement arrosés de pleurs à l'intérieur de nous-mêmes que tout ça, ça éteint. Finalement, et on peut virer dans le sentiment et puis devenir incrédule. Et puis il y a la moquerie après. Regarde. Quand ils vont voir Jésus rentrer avec deux de ses disciples, je pense, je ne me souviens plus, dans la chambre de la petite fille, ils vont dire « Mais elle est morte, qu'est-ce qu'il peut faire ?» Et les gens vont se moquer. C'est terrible tout ça. Hein. « Bien que tu dises que tu ne le vois pas, fais-lui confiance quand même. Attends-le. Attends-le tout simplement parce que ta cause est devant lui. La cause de cette femme, la cause de Jaïrus dans toute leur détresse de la mort de leur enfant, l'un et l'autre, c'est que finalement, eh bien, Dieu n'avait pas oublié. Et quand Dieu se tait, ça ne veut pas dire non. Attends. Eh oui, attends. Alors je voudrais tout simplement retranscrire ces quelques petites paroles que nous avons lues ensemble, un petit peu fracturées, excusez-moi, mais toujours est-il que rapporter un petit peu les faits pour bien comprendre la situation. Élisée est un prophète un petit peu évangéliste, vagabond, il va d'une ville à une autre, etc., etc., il est reconnu, hein. Il a été introduit par Dieu, par le truchement d'Élie, hein, le grand Élie. Alors, il passait dans la ville de Sunen, et nous voyons qu'elle avait pris ses marques chez une femme qui était riche, on l'a vu, hein, elle était... Et il s'est arrêté là parce qu'il avait rencontré de la bienveillance. On ne l'avait pas chassé, hein, l'homme de Dieu. Parce que quelquefois, il ne passait pas toujours, hein, partout, hein. Et nous voyons que cette femme avait montré de la bienveillance et quelque part, le prophète, quand il allait dans la région, eh bien, il avait l'habitude d'aller frapper à la porte de la Sunamite et puis de dire « Tiens, voilà, je viens de te demander des nouvelles, comment ça va, etc. » Et puis, cette femme a lui réservé toujours deux ou trois jours, une petite chambre. Ils avaient même fait une construction pour lui en disant « Il aura sa petite pièce, il aura tout ce qu'il faut, il restera le temps qu'il veut, un homme... » Enfin, une femme de grâce, en quelque sorte, une femme de miséricorde. Il nous a dit qu'elle était stérile, parce que son mari était vieux. Il ne nous a pas dit qu'elle était stérile, mais son mari était vieux, et que maintenant, eh bien, la nature ne pouvait plus faire, finalement, son œuvre. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on a souligné l'histoire d'Abraham. Imaginez-vous des naissances pour Sarah, qui avait 80 et quelques années. On a battu les records dans ce domaine, hein, pour la longévité, finalement, de la procréation. Mais là, maintenant, ça fait quand même assez bizarre. Hein. Elle était stérile. À cause de son tourment de femme qui ne pouvait pas avoir des enfants. Ça, c'est très connu dans la Bible. Hein. Il y avait Sarah, il y avait Rebecca, il y en a eu bien d'autres comme cela. Hein. Et voilà que le prophète, pour remercier la générosité de cette Sunamite, va lui dire « Mais qu'est-ce que l'on peut faire ?» Il va se tourner vers son serviteur Géasi. Et puis Géasi va lui dire « Mais elle n'a pas d'enfant. » Et le prophète, naturellement, eh bien, va lui dire « Moi, j'ai un cadeau, mais c'est un cadeau de Dieu. Ouais. » Elle a un problème moral, elle a un problème de femme, elle a un problème affectif. Alors, on va lui donner ce qu'elle a besoin. Parce que ce qu'elle a besoin, c'est comme Anne, ça c'est pareil, hein, l'histoire de Samuel. Alors, le prophète a tout de suite compris que le plus grand cadeau pour la remercier, c'était de prier Dieu et que Dieu lui donne un enfant. Et un fils va naître de la prophétie d'Ésaïe, inspirée par Dieu. Puis voilà, comme nous l'avons dit tout à l'heure, hein, l'enfant a grandi, il était peut-être adolescent, il était peut-être garçonné, moi je ne sais pas, et il s'est trouvé dans les champs avec son père au moment de la moisson. Et là, il va avoir une douleur dans la tête qui est, nous pourrions dire, irrémédiable. Il n'y a pas de secours possible. Hein. Mon père, ma tête. Alors, le père va dire, écoute, ses serviteurs emmènent-la tout de suite vers sa mère et puis on va voir, on va penser au problème. Et voilà que le jour même, l'enfant meurt sur les bras, dans les bras de sa mère. Et c'est le drame. Rien pu faire. Et il y a cette parole extraordinaire, et c'est le cœur même de notre méditation. Cette femme, comme nous l'avons dit, eh bien, va répondre d'une manière tellement étrange. Peut-être ferions-nous le contraire. Mon enfant est mort. Elle est effondrée, elle ne peut plus parler, elle est anéantie, et c'est normal. Et elle va répondre le contraire, elle va dire, quand on va lui poser la question, « Mais tout va bien. » Ah ouf ! On va dire, « Mais il y a un petit problème. Hein. Là, il y a quelque chose, elle est tombée dans la folie en perdant son enfant. Elle n'est pas réaliste, c'est pas possible. Elle l'avait dans les bras, il est mort, elle le constate, et elle dit, quand on lui pose des questions, mais tout va bien. Tout va bien. Tout va pour le mieux. Et nous pouvons ajouter, puisque vous en connaissez déjà un petit morceau, tout va pour le meilleur. Mais il faut passer l'épreuve. Il faut accepter l'épreuve. Il faut vivre l'épreuve sans fléchir. sans défaillir et n'avoir qu'un regard, c'est pas vers la terre. Même un homme comme Élisée ne peut rien faire. Même tout ce que l'on pourrait déployer aujourd'hui avec nos situations et nos interventions d'urgence, non, faut pas regarder vers la terre, faut regarder vers le ciel. Et c'est ça la question qu'elle a dans son cœur. Alors elle se tait. Elle peut dire « tout va bien parce que maintenant moi je ne dépends pas finalement de ce que je peux espérer de revoir mon fils, mais c'est le ciel ». Avait-elle une pensée peut-être métaphysique en pensant que bon, il se reverrait au ciel? C'est ce que nous disons lorsque nous perdons un bien-aimé. On se reverra au ciel. Non, 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 non. On va se revoir sur la terre. Dans certains cas, c'est... elle y croit ça. Dur comme fer, nous pourrions dire. Ce sont les silences de la détresse. Il y en a qui poussent des cris, il y en a qui hurlent leur chagrin, leur misère. C'est terrible. Et nous ne pouvons avoir que de la compassion pour ceux et celles qui passent par là. Ouais. Parce que la compassion, c'est un sentiment de Jésus dans notre cœur qui nous est donné par le Saint-Esprit. Et nous voyons que c'est les silences de la détresse. Elle est réellement en détresse. Elle est profondément malheureuse. Elle est dévastée. Silence. Et, ajoutons à cela, elle portait dans son cœur les secrets de l'espérance. Ça ne se voit pas. Elle ne dit rien. Il vaut mieux rien dire. Il vaut mieux pas essayer d'expliquer les choses. Ou même réciter peut-être, eh bien là, sa théologie... évangélique, en disant « ben oui, mais il y a ceci, il y a telle parole, etc. » Elle ne dit rien, elle le vit toute seule. Et c'est bien là où nous avons besoin du secours des autres. Mais le secours des autres, quelquefois, n'est pas toujours très habile. Hein? Parce que devant, peut-être, quelqu'un que l'on a perdu, un bien-aimé, il y a des gens qui nous sortent des trucs, excusez-moi l'expression, c'est un peu grossier, mais il faut mieux de se taire. Hein? Parce qu'ils ne sont pas là pour consoler, ils sont là pour enfoncer. Sans le savoir! Quelquefois d'une manière très innocente. Ah oui, mais bon. Eh oui, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Rien à dire. Attendre et croire. Et voilà qu'intervient le surnaturel divin. Oui, il y a le surnaturel humain. Quoique ce n'est pas du surnaturel celui-ci. Hein. Mais on peut le faire passer pour du surnaturel en disant, voilà, hein, parce que ce n'est pas un tour de passe-passe. Alors, moi, j'appellerais que quelquefois, il y ait une alliance entre le surnaturel divin humain et le surnaturel malin, hein, parce qu'il s'arrange bien pour nous tourner l'esprit, puis nous faire croire à des choses qui sont complètement des inepties. Surnaturel divin. Alors il y a des tentatives infructueuses humaines, Géasi est délégué, pour aller voir cette femme. Pour faire ceci, le prophète lui dira, bah, tu prendras ton bâton, tu le mettras sur... voilà, tu le prendras, tu le serreras, cet enfant, et rien du tout. Vous savez ce que ça nous rappelle, ça? Ça nous rappelle encore le père de l'enfant épileptique qui, quelque part, va laisser ses disciples en bas. Eux, ils sont sur la montagne de la Transfiguration. Et puis, quand il va revenir, les disciples vont lui dire « mais on n'a rien pu faire ». Ben oui, parce que s'il n'y a pas la foi, on ne peut rien faire. Parce que c'est la clé, la porte, la fenêtre même, si on veut que ça passe par là. Eh bien, c'est véritablement la foi. Et Jésus, dès qu'il arrive, il va leur dire « gens de peu de foi ». Pourquoi ? Et Jésus va arriver... Et là, il va finalement eh bien, faire avec l'enfant ce qu'il faut faire. Ouais. Et les choses vont se passer, et l'enfant va être délivré de sa crise d'épilepsie qui l'a amené jusqu'au suicide. Tentative de suicide, en tous les cas. Alors ça, c'est la prière miraculeuse du prophète. Quand il va arriver dans la maison, il va certainement eh bien, là, voir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut, ce que Dieu va lui montrer. Et... il va se passer quelque chose, et c'est là la question supérieure. C'est la foi dans le tout possible. Nous avons un mot, c'est impossible. Ouais. Alors on avait un slogan il y a une cinquantaine d'années, impossible n'est pas français. Eh bien peut-être que l'on va... on a déjà appris la leçon. Hein? Alors, quelquefois, les hommes se démènent comme des beaux diables pour essayer de produire quelque chose, mais bon, ils n'y arrivent pas parce qu'il y a des contingences de tous les côtés. Hein, il y a des déceptions, des contrariétés, enfin des vexations, enfin tout ce que le monde peut apporter naturellement. Mais là, c'est la foi du tout possible. Et cette foi du tout possible, c'est Dieu qui nous la met au fond de nos cœurs. Ce n'est pas une invention, C'est pas faire une démonstration, finalement, pour essayer de convaincre les autres. Non, c'est le tout possible. Et ça va être le tout possible, c'est la résurrection de cet enfant. Une résurrection, c'est véritablement dans la dimension du tout possible. Eh oui, parce que jusqu'ici, on en voit beaucoup. Hein. Il dit, j'étais mort, et je suis revenu à la vie. Hein. Jésus, voilà. Alors, j'aimerais justement, eh bien, j'avais raconté une petite histoire qui m'avait véritablement, eh bien, convaincu de la pertinence de ce message. Peut-être que vous en souvenez pas, les plus anciens. Ah oui, ça fait quelques années hein, de ça. Vous connaissez l'histoire du paysan ? Oui, vous connaissez. Mais écoutez bien, pour ceux qui l'ont entendu, vous allez peut-être la réécouter, vous allez, je vous remette un peu sur la piste. Cette histoire illustre le tout va bien, tout va pour le mieux, tout va vers le meilleur. Il y avait un pauvre paysan, là je ne sais dans quelle région, dans quelle contrée, qui n'avait qu'un cheval. Ça y est, qui n'avait qu'un cheval. Et il vivait pauvrement, il vivait seul avec son fils. Et il était chrétien, on peut dire qu'il avait la foi en Dieu, si on veut mettre ça dans une autre époque. Et pour aujourd'hui. Et il cherchait toujours la volonté de Dieu. C'est vrai que les paysans sont peut-être beaucoup plus adaptés à découvrir Dieu dans la nature, par le fait du miracle de la nature qui se renouvelle continuellement, que peut-être que c'est qui vivent dans les métropoles et tout ça, parce que bon, c'est du béton et c'est tout le reste. Alors il cherchait toujours la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je fais ? Et il vivait chichement, nous pouvons dire. Et un beau jour, son cheval s'échappa. Ben oui, je sais pas, il avait peut-être une amie quelque part, comme ça peut arriver chez les animaux. Donc il s'est échappé, et ses voisins sont venus chez lui. Ils étaient consternés parce qu'ils le savaient pauvre. Et il dira, mais quelle malchance, quel malheur, toi qui es pauvre, comment tu vas faire maintenant, puisque tu as perdu ton cheval, tu as perdu. Eh bien, les moyens de pouvoir labourer, de pouvoir faire tout ce que tu as à faire et de pouvoir gagner ta vie, faire ton pain, enfin bon, toutes sortes de choses, enfin gagner ton pain. Alors ils se sont mis tous à... Ils disaient tous comme les amis de Job, vous savez, là, les Eliphar de je ne sais pas quoi, et puis Théophase, enfin bon, c'est moi qui les invente les mots. Hein, voilà. Hein. Quel malheur, mon pauvre Job. Tu as perdu ton exploitation, tu as perdu tes serviteurs, tu as perdu tes troupeaux, tu as perdu ta santé, tu as perdu tes fils, tu as perdu tes filles, et puis attention, hein, tu as perdu ta femme. Hein. Elle avait des conseils extraordinaires, Madame Job. Hein. Hein. Alors il lui a dit, elle se moquait de lui, elle lui a dit, tu pries Dieu tous les jours ? Eh bien, ah dis donc, hein, maintenant, t'as vu ce qu'il te fait, ton Dieu ? Eh bien, tu sais, tu maudis Dieu et tu meurs. Les perspectives sont assez limitées. Voilà. Alors, bon, pour revenir à mon histoire, quelle malchance ! Tu es un pauvre homme, que vas-tu faire ? Et le paysan a répondu ceci, « Qu'est-ce qui vous fait dire que j'ai de la malchance ?» Je pouvais dire, mais oui, la malchance, ça m'est tombée sur la tête, et il y a des fois, il y a des renversements de la vie où tout devient difficile, tout devient catastrophique, et ce sont des séries noires, ce sont des séries qui sont terribles, naturellement, hein. Alors il a répondu, ben voilà, mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est de la malchance ? Que c'est le malheur ? Question. Quelques jours passèrent, ou peut-être quelques semaines, hein, si on veut peut-être un petit peu étirer la chose, et le cheval revint à la ferme, à l'écurie, comme ça il l'a vu arriver un petit matin ou dans l'après-midi, tout guilleré, le cheval, etc., tout content, et voilà. Hein. Il revint en compagnie de 12 chevaux. C'est mieux que le loto. L'Eurovision, l'euro... Million, voilà. Non, mais moi, je suis un joueur invétéré. Et... Merci de nous le rappeler. Ça me fait penser qu'il faut que je joue. Hein. Non, non, faut pas, hein, parce que c'est pas normal. Enfin, pour moi, en tous les cas. Alors, il est revenu avec 12 chevaux sauvages. Là, il y avait du boulot, là, parce qu'il fallait les dresser. Mais il était content, parce que là... C'était quelque chose. Il possédait maintenant 13 chevaux. Hein, 13 chevaux moteurs. On pourrait dire, c'est déjà du calibré et du cylindre. Hein. Alors, ses voisins l'apprirent, un petit peu pincés parce que finalement, c'est un retournement. Et ils l'apprirent et lui dirent « Oh, voilà, tu as de la chance !» C'est plus un malheur, c'est une bénédiction. Alors peut-être que pour eux, ils se disent si ça pouvait nous arriver et tout ça. Hein. Tu as de la chance. Alors le fermier a répondu ceci aussitôt. Quand savez-vous si c'est de la chance? Il ne fait pas des grands discours. Hein. C'est bien ordonné. Hein. On peut le dire de cette manière. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire si c'est de la chance? Puis quelques semaines s'écoulèrent, hein, ça passe sur le temps naturellement, on est en train de dérouler l'histoire, et le fils fut frappé par l'un des chevaux qu'il était en train de dresser. Souvenez-vous, il était sauvage. Et là, véritablement, une blessure terrible, hein, avec peut-être une jambe inutilisable pour le reste de sa vie, ça c'était possible. Hein. Sa jambe était brisée. Ses voisins sont revenus encore une fois le voir et lui dirent « Mais quel malheur ! Que ton fils a été blessé comme ça, tu vas perdre finalement et bien là toutes les ressources du travail de ton fils et tu vas être encore plus malheureux, quel malheur. Et le vieux paysan leur a répondu à nouveau, mais si, qui sait si c'est un malheur. Philosophe, hein, le grand-père là, enfin le père plutôt, philosophe, hein. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Qui sait si c'est un malheur? Qui sait si c'est de la chance? Qui sait si c'est de la malchance? Etc. etc. Et puis, quelques temps passèrent encore, hein, le défilement de la vie. Et la guerre éclata dans le pays. Vous savez, comme on en connaît hein, aujourd'hui, hein, parce que là, on n'a pas assez des doigts, des petits doigts pour savoir ce qui se passe ici, ce qui se passe là. Hein. La guerre partout. La guerre a été déclarée et les soldats ou les militaires de recrutement sont venus dans le village, tout simplement, et bien là, incorporer des jeunes gens valides pour aller au combat. Ce qui se fait, c'est comme ça, hein. Et très peu sont revenus. Oui, leur nom est revenu sur le monument aux morts, hein. Ça, c'est surtout ça. Et figurez-vous que le fils de ce paysan échappa aussi à la mort grâce à son infirmité. Il nous arrive parfois des choses qui sont compréhensibles, non pas sur le moment, mais après. On peut le savoir sur la longueur de la vie, sur quelquefois des interventions chirurgicales qui nous ont fait trembler, et on a su pourquoi. Pourquoi ? Dieu a permis, parce que Dieu peut nous guérir miraculeusement, mais il veut que nous passions par les hommes. Parce que premièrement, quand on est passé par là, on va comprendre ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le malheur, ceux qui se font opérer. Quelquefois, Dieu nous parle aussi à travers la disparition de certains. Alors on ne comprend pas pourquoi, Seigneur, mais il y a des raisons où Dieu, finalement, alors on préférait que ça soit autrement, mais on comprend après. On comprend après. Alors, il a échappé à la mort à cause de, finalement, cet accident. La leçon de tout cela serait la suivante. Chance ou malchance. Bonheur ou malheur. Accident ou tout simplement, eh bien là, d'avoir et de conserver une vie normale. Mais tant de choses. Ouais. Il y a des gens dans les accidents de la route, quelquefois, ils en parlent parce qu'ils sont encore vivants. Mais ils ont été mis véritablement à l'épreuve. Hein. Et certains, on entend des témoignages qui sont extraordinaires, en disant c'est à cause de ça, c'est à cause de ceci, que finalement, eh bien, j'ai pu découvrir ma vocation. J'ai pu découvrir peut-être le succès. Hein. Les artistes le disent quelquefois. Hein. Ouais. Et il y a des situations comme ça que nous ne comprenons pas, mais qui vont être aussi l'occasion de témoignages qui nous ont fait du bien nous-mêmes, mais qui vont faire un grand bien à d'autres pour les encourager, ou même leur éviter de faire n'importe quoi. Eh oui, éviter de faire n'importe quoi. Ouais. Hasard, fatalité, ça ne vous arrivera pas, vous avez des chevaux, non? Vous avez une voiture. Eh bien, ce sont des chevaux. Et quand vous faites massacrer la voiture, vous êtes très content. Peut-être que le Seigneur va nous en offrir 12.
Voilà.
Ben exactement, voilà, il y a quelqu'un là qui a la foi. Eh oui, hasard, fatalité. Et pour nous, les croyants, les bonnes ou mauvaises circonstances servent toujours à notre bien, même si nous ne comprenons pas toujours, si nous ne nous comprenons pas immédiatement. Alors là, quelquefois, faut du temps, attends-le, hein, mais ta cause est devant lui, ce qu'il nous arrive. Alors, moi, je crois que dans tout cela, eh bien, il y a des choses qui sont fort intéressantes. Et la conclusion, tout va bien. On ne sait pas ce qui va arriver là dans les jours qui viennent, ça ne dépend pas de nous. Hein. Ça peut dépendre d'un bout de papier, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas sur 60 ou 40 millions d'électeurs que ça va se jouer. Hein. Ça c'est sûr. Mais enfin bon, en tous les cas, moi je ne fais pas de politique. Tout va bien, même au sein d'un océan de désespoir. Écoutez bien cela. Même au sein d'un océan de désespoir. Et de pouvoir encore, comme nous le faisons ce matin, merci Seigneur, on a entendu des louanges, on a entendu bénir le Seigneur, on l'a entendu finalement eh bien, de le glorifier. Et pourtant, les uns et les autres, nous sommes passés vraiment par des moments difficiles. Il y a des frères et des sœurs qui ont connu véritablement le bout du bout, hein, dans certaines souffrances, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, qu'elles soient psychologiques, qu'elle soit spirituelle aussi. Parce que quand le diable attaque, je peux vous dire qu'il ne lâche pas la prise. Hein. Résistez-lui avec une foi ferme. Car ce qu'il est vaincu. Jésus est vainqueur. Et ça, il faut y penser tous les jours. Ça, il faut y penser dans le réflexe que nous devons avoir. Eh oui, tout va bien. Même au sein d'un océan. Je terminerai par cette belle parole. Moi, j'aime beaucoup cette parole. Elle nous vient de l'apôtre Paul, qui, lui, n'a jamais de soucis dans sa vie. Vous le savez aussi bien que moi, le pauvre. Et il écrira ceci pour que nous puissions véritablement en être convaincus. Écoutez, ça, vous connaissez le texte, mais j'aimerais dire quelques mots quand même. Chapitre 8. Romains, chapitre 8, verset 28. Voilà. Nous savons. Et pourquoi nous le savons? Comment nous savons? Parce que d'autres nous l'ont dit. Et ce matin, c'est moi qui vous le dis. Nous savons. Vous savez maintenant. Nous l'avons appris. Nous savons du reste. Par-delà tout le reste. Les tempêtes, les océans, les contrariétés, les privations, toutes sortes de choses. Que toute chose, et c'est bien marqué, c'est une plénitude d'expression, en quelque sorte. Toute chose concourt, elle favorise, elles sont là pour être des porteuses, finalement, d'une bénédiction, d'une grâce. Concourt au bien, pas au mal. Il y a des gens qui voient le mal partout, il y a des gens qui ne voient que le négatif. Et ce sont des chrétiens tristes parce que finalement, eh bien, c'est le contraire que nous dit la parole. Et moi, je veux me réjouir. Heureux celui qui croit. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si je mets, nous l'avons entendu ce matin, Seigneur, je t'aime. Et ils l'ont exprimé d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas avec le verbe aimer, mais d'une manière ou d'une autre, c'est leur attachement. C'est leur fidélité au Seigneur. C'est leur expérience de vie. C'est leur conversion. C'est ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et ils ne savent pas ce que sera demain. Mais comme les expériences d'hier vont nous fortifier pour demain, c'est bon. Qui aime Dieu et ceux qui sont appelés selon son salut, selon son dessein. Personne n'a à douter ce matin que Dieu a donné Jésus-Christ sur la croix pour que nous soyons sauvés. Il est véritablement notre lieu commun, Jésus. Unique. Infini. Et je finis par cette lecture. Mais dans toutes ces choses, alors là, il est question finalement de tout ce qui peut être négatif dans la vie, hein, si vous lisez ce qui précède. Mais dans toutes ces choses, moi j'ajouterais négative, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. C'est parce que Jésus nous aime qu'aujourd'hui nous avons appris à l'aimer comme un père, comme un frère. et parce que justement les choses sont bien marquées par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance. L'assurance, les assurances que nous avons dans la vie. Voilà, si vous proposez d'aller voir votre assureur en disant « je voudrais une assurance pour ceci et cela », surtout si c'est des choses spirituelles, il a dit « on ne fait pas ». Non, on ne fait pas. Alors, j'ai l'assurance que ni la mort, qu'est-ce que nous craignons le plus, nous, les vivants, c'est de mourir. Bah oui, on essaie quand même de mettre les choses... Ni la vie, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la vie et qui voudraient mourir. Eh oui. Ni les anges, c'est-à-dire le monde spirituel, autorités, principautés, esprits méchants dans les lieux célestes. Ni les autorités. Autorité, ça veut dire ni les anges, d'abord divins, les anges de Dieu, et puis les anges de l'adversaire, hein, malin. Ni les dominations, alors on peut y inclure les nominations de cette terre aussi, hein, les principautés. Toutes les choses présentes et les choses à venir, ni le passé, ni le présent. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, quelquefois si vous avez un mal d'altitude. Là, il y a profondeur aussi. Hein. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur est magnifique, il est formidable. Et mes frères et sœurs qui avaient traversé, qui traversaient présentement des séries noires, des moments difficiles, toutes sortes de choses, écoutez bien, je voudrais vous dire, tout va bien.
Amen. Amen.
Que Dieu nous bénisse.
Amen.
Et que Dieu nous donne sa grâce. Tout va bien. Tout va pour le mieux. Vivons, que Dieu nous laisse la vie. Ouais, on aurait pu partir quelquefois si le Seigneur n'avait pas mis sa main. Moi, j'ai fait un message il y a 6 ans maintenant, après mes opérations qui n'en finissaient pas, cancer et autres. J'ai fait un message que j'ai intitulé « Tu m'as laissé vivre, Seigneur ». Que Dieu nous bénisse.
Amen.
Amen. On va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et te remercier, moi je te prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs qui sont présents maintenant. Croyons, Père éternel, que si tu nous mets ces paroles sur notre cœur, c'est que nous avons besoin de ta joie. Nous avons besoin de ta paix. Nous avons besoin de savoir que nous ne sommes pas seuls au monde, sur cette terre enflammée, cette terre d'inquiétude, cette terre de misère. Et peut-être nous pouvons y ajouter cette terre d'enfer. Pour les incrédules. Eh bien, Seigneur, moi je te demande de bénir richement mes frères et mes sœurs, de les, eh bien là, en effet, réconforter, de les consoler, de les visiter, Seigneur, parce que nous savons que l'apôtre Paul pouvait dire cette parole, « En Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. » Merci, mon Sauveur. Amen.
Amen. Amen.